Le Messie est venu. C'est un message prêché à Noël par M. Alan Cairns. Nous allons examiner ensemble une des premières promesses dans la Bible à propos du Messie. Notre texte se trouve en Genèse, dans le chapitre 49, au verset 10. Mais nous commençons à lire au verset 9. Le chapitre 49 de Genèse est l'histoire de Jacob sur son lit de mort. C'est un très vieil homme. Il a 47 ans et il sait qu'il va bientôt mourir. Il appelle autour de lui ses fils pour le laisser à chacun une bénédiction. Réfléchissons un peu à cela. Nous allons tous mourir comme Jacob, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Face à la mort, j'espère que nous saurons tous laisser une bénédiction à nos familles. Je pense à certains parents, dont plusieurs sont nommés dans la Bible, qui ont laissé une malédiction. Ils ont laissé la malédiction d'avoir mis leurs enfants sur le chemin ruineux qui mène à l'enfer. C'est vrai que Jacob n'avait pas très bien commencé sa vie, mais par la grâce de Dieu, cet ancien supplanteur est devenu un prince avec Dieu, un homme qui connaissait Dieu et la justification qui vient par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait laisser une bénédiction à ses fils. Avant de lire notre texte pour apprendre ce que Jacob a dit à un de ses fils, permettez-moi de vous demander ceci. Pourriez-vous laisser une bénédiction soit à votre famille, soit à votre quartier, soit au monde en général? Quel héritage laisseriez-vous à vos enfants si ce soir Dieu vous prenait? Je me rappelle une illustration que le Dr Paisley a donnée il y a quelques années et que je n'ai jamais oubliée. Il neigeait et le père, qui était alcoolique, a dit à son fils de rester dans la maison lorsque lui devait sortir pour faire des courses. En réalité, il allait acheter une bouteille. Lorsqu'il se poussait en avant dans la tempête de neige, à un moment donné, par hasard, il s'est tourné pour regarder derrière lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? C'était son fils, son petit-fils, qui le suivait en mettant soigneusement ses pieds dans les traces laissées par son père dans la neige. Il y a des parents comme ça, qui mènent leurs enfants à l'enfer. Quelle tragédie! Quel héritage laisseriez-vous à vos enfants? Si vos enfants suivent votre chemin, où iront-ils? S'ils apprennent votre attitude envers l'Évangile, qu'est-ce qu'ils croiront? S'ils font ce que vous avez fait avec l'offre de l'Évangile, que feront-ils avec Jésus? Par contre, Jacob avait une bénédiction pour ses enfants malgré ses fautes. S'adressant à Judas, il a dit « Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. » Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est apparemment à ce passage que l'apôtre Jean pensait quand il a décrit Jésus dans le livre de l'Apocalypse comme le lion de la tribu de Judas. Il a vu en Christ l'accomplissement final de la prophétie de Jacob en ce qui concerne la tribu de Judas. Tous les expositeurs, soit juifs, soit chrétiens, ont donc raison de voir dans le verset 10 une référence délibérée au Messie promis. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et ce Messie longtemps promis est en fait venu. Considérons de plus près ce texte qui parle d'un Messie promis, d'un Messie personnel et d'un Messie puissant. Trois vérités qui sont toutes accomplies en Jésus-Christ. Tout d'abord, le texte parle d'un Messie promis, lui qui viendra de la tribu de Juda. Déjà dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, ici à l'aube de la révélation de Dieu, on apprend que le Messie viendrait de la tribu de Juda. C'est une vérité soutenue partout dans les Écritures. Dans le premier livre de Chroniques, le chapitre 5 et le verset 2, on lit que Juda fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Cela fait évidemment référence d'abord à David, car il est devenu roi, mais c'est aussi une référence au plus grand fils de David, c'est-à-dire au Christ. L'apôtre Paul, dans Hébreux 7, et le verset 14, dit qu'il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Le prophète Michée le redit dans Michée 5, 2, quand il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera l'Israël et dont l'origine remonte jusqu'aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Bethléem, appelé aussi dans la Bible Bethléem Juda, devait être la ville d'où il sortirait. Puis Michée ajoute un autre détail en disant que la sortie du Messie de Bethléem n'était pas en réalité sa première sortie, car son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. L'expression « au jour de l'éternité » exprime l'idée que le Messie existait même avant la création du temps. Elle nous raconte la vérité que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Voici le mystère, que celui qui sort éternellement du Père est celui qui, à un moment donné, dans le temps, est sorti, né d'une vierge. Quel mystère! Dieu, l'Éternel, unifié avec l'humanité finie. Vrai Dieu, unifié avec vrai homme. De sorte que, né de la substance d'une vierge, l'homme Dieu, le médiateur, le sauveur, le Messie est venu. Notez ensuite le moment où il est venu. C'est un texte très intéressant. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le mot sceptre veut dire bâton, et il est souvent traduit tribu. En effet, il est traduit ainsi plusieurs fois dans ce même chapitre. Je pense que la raison pour cela est simple. Dans le tabernacle de Moïse, chaque tribu avait son bâton étalé devant l'Éternel. C'était pareil dans le temple, de sorte que chaque tribu a été symbolisée par son bâton. Le bâton ici veut dire donc la tribu, ou plutôt l'identité de la tribu. L'expression « le bâton souverain d'entre ses pieds » veut dire un bâton souverain de sa postérité. Notez le beau parallélisme dans cette phrase. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et puis, le bâton souverain de sa postérité jusqu'à ce que vienne le Shiloh. et que les peuples lui obéissent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un texte très important, parce que les Juifs continuent à nier même à nos jours que le Messie est venu. Et ceci est un texte qui montre la folie de cette présomption. Ce texte dit que la tribu de Juda atteindrait l'autorité souveraine et garderait son identité, mais finalement, il les perdrait toutes les deux. Or, il est évident dans l'Ancien Testament que Juda a en effet obtenu l'autorité. C'était la tribu des rois. Et c'était la tribu qui a retenu son identité même après la dispersion d'Israël. Même au jour du Seigneur Jésus-Christ, il y avait toujours ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse, selon lui, c'est-à-dire le législateur et juge étaient toujours là. Mais dans les années après Jésus-Christ, Juda aussi a perdu son autorité et son identité, toutes les deux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelques Juifs qui puissent vous dire de quelle tribu ils pensent qu'ils sont descendus, mais on ne peut pas être sûr. Quelqu'un peut déclarer, par exemple, qu'il est de la tribu de Lévi parce qu'il s'appelle Cohen, étant donné que le mot Cohen veut dire prêtre et les prêtres sont descendus de Lévi. Mais la vérité, c'est que personne ne sait comment les Cohen se sont mariés ou intermariés, ni si certains noms ont été pris sans autorisation légitime. Il n'y a pas de lignage de tribu. Il n'y a de nos jours aucun moyen d'identifier les tribus d'Israël. La distinction a disparu il y a longtemps, au moins du point de vue de la sagesse humaine. Et pourtant, la promesse est que le Messie viendrait avant que Juda ne perde son identité et son autorité. Le moment de son arrivée est bien évident dans la promesse. Et je crois qu'elle suggère que l'autorité et l'identité de Juda disparaîtraient bientôt après, ce qui est arrivé, en fait, dans les années suivant la venue du Messie. Notre texte présente donc un Messie promis. Mais en plus, il parle du caractère de ce Messie personnel. Il est appelé Shiloh. Jean Calvin croyait que le mot Shiloh est venu d'un mot ancien qui signifie « fils » et que donc il montre que le Messie et que le Fils de Dieu. D'autres voient la similarité avec le mot « Siloam » qui veut dire « envoyé ». Le Messie est celui qui est envoyé. D'autres encore font appel à Ézéchiel 21, le verset 27, où le mot est traduit « celui à qui appartient le jugement ». Ils disent que c'est ça la signification, le Messie est le souverain à qui appartient le jugement. Il y a beaucoup de vérités dans toutes ces interprétations, mais moi, à mon avis, je crois que Shiloh est tout simplement le mot pour la paix. Même à nos jours, la salutation d'un juif est Shalom. La racine est le même. Shiloh est notre Shalom. Il est notre paix. C'est celui qui donne la paix, qui procure la paix. Un expositeur anglican du 19e siècle a dit très directement que le mot veut dire simplement que le Messie est le prince de paix. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, 14, dit qu'il est notre paix. Il a obtenu la paix pour nous et il nous a réconciliés avec Dieu. Et quand il est venu, il a prêché la paix. Réfléchissons un peu à cela. Le Seigneur Jésus est notre paix. C'est le médiateur entre Dieu et l'homme. C'est celui qui a satisfait les exigences justes de la sainte loi de Dieu. Il a éliminé la colère de Dieu que nous méritons. c'est celui qui peut prendre la main d'un pécheur pour l'emmener juste dans la présence de Dieu. Il lave tous les péchés du pécheur. Il le purifie de toute iniquité, le couvre du manteau de sa propre justice et le présente devant Dieu, acceptable en Christ, réconcilié à Dieu. Il est notre paix. Ça, c'est un des plus beaux thèmes dans la Bible entière. Le Messie procure notre paix. Il amène notre paix. Il nous donne la paix. Vous vous rappelez comment il a préparé ses disciples pour son départ de ce monde? Il leur a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. » Voilà ce que le Seigneur Jésus fait. Il dit, « Je vous donnerai la paix avec Dieu. » Savez-vous quel est le plus grand fléau en Amérique aujourd'hui? Ce qui rend les gens fous, ce qui remplit les foyers de haine, de violence et de méchanceté, c'est la culpabilité de péché. C'est le plus grand problème en Amérique aujourd'hui. On peut dire qu'on ne se sent pas coupable, mais ça ne change rien. On peut essayer de noyer ses chagrins dans l'alcool, mais le lendemain, la culpabilité et le péché et la honte sont toujours là. On essaie de l'oublier, mais étant rentré en soi-même, comme l'enfant prodigue, on trouve que le fardeau de culpabilité reste toujours là. On essaie de le surmonter en faisant de bonnes œuvres, en distribuant aux pauvres, en offrant son argent à l'Église. Ce sont des actes admirables. Mais à la fin du jour, le fardeau reste toujours. Par contre, le Seigneur Jésus offre la paix au cœur troublé. Il va jusqu'au fond de l'affaire. Il purifie la conscience par le pouvoir et par la vertu de son propre sang précieux. Il réconcilie le pécheur avec Dieu. Bénissez Dieu, Christ donne la paix intérieure, la paix pour vivre, la paix pour mourir, oui, la paix pour mourir. Ça, c'est facile à dire quand on est en bonne santé. En bonne santé, il est facile de dire « Je n'ai pas peur de mourir ». Moi, j'ai entendu des fous qui parlaient ainsi. « Je ne crains pas la mort », ils disaient. Quelle folie! Il n'a qu'un seul qui peut donner la vraie paix quand on est sur le point de traverser le Jourdain. Jésus-Christ dit, « Je suis avec toi, je te donnerai la paix. » Voilà son caractère. Si tu écoutes ma voix et il y a une vide profonde dans ton cœur, je veux te dire que le Messie est venu et il s'appelle Shiloh, celui qui fait la paix avec Dieu et qui donne la paix à son peuple. Je finis maintenant par parler un peu de la puissance du Messie. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Comment peut-on obtenir la paix du Shiloh? C'est par l'obéissance, par la soumission au Christ. Car, en effet, il est roi. La parole de Dieu dit « Il règnera ». Ce n'est pas simplement de la poésie, c'est la parole de Dieu. Christ règnera, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il exige la soumission. Qu'est-ce que c'est la soumission au Christ? C'est de se présenter devant lui, de confesser ses péchés et d'avouer qu'il est le Fils de Dieu et le seul Sauveur. C'est de se repentir et de le recevoir comme Sauveur, comme Seigneur, comme Maître et comme Roi. Sachez que quand tu viens au Messie, au Christ, pour lui obéir, tu seras parmi les millions qui l'ont déjà fait. Il y a un beau texte dans l'Apocalypse, au chapitre 7, et je crois que ce texte complète la pensée de Genèse 49. C'est au verset 13 et 14. « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Bientôt viendra le jour où Christ reviendra, et alors les millions de toutes les générations se lèveront pour adorer celui qui connaissent leur roi. Seras-tu parmi eux ? Pour y être, le seul moyen est par recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Quand les anges ont annoncé la naissance de Jésus aux bergers de Juda, ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts » et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Voyez-vous ce que Dieu dit ici? Voici le Christ, voici le bon gré de Dieu, voici la paix. La paix est venue et elle est offerte sur la terre aux hommes. Permets-moi de te demander, t'es-tu déjà soumis au Christ? Lui obéis-tu? Est-il roi de ta vie? Est-il le sauveur de ton âme? Sinon, pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Amen.